Bonne journée à tous, bon lendemain de Pâques, à tous ceux qui ont pu célébrer la Pâques du Seigneur ce week-end, et bien à tous et à toutes, nous vous souhaitons la bénédiction, et puis en espérant que vous vous portez tous très bien, et que malgré le confinement, malgré les contraintes, les restrictions, vous avez pu quand même festoyer avec le Seigneur pour vous remémorer vos souvenirs. Bien sûr, de son sacrifice qu'il a fait pour vous, pour nous, pour moi, mais également, non seulement de sa mort, mais de sa résurrection. Et frères et sœurs bien-aimés, d'abord et avant tout, je vous dis bienvenue, merci d'être connectés sur cette capsule évangélique, capsule d'évangélisation sans prétention aucune. Message qui est fait avec les moyens du bord, tout ça, selon ce qui est à la portée de la main. Donc, il se peut que vous entendiez des bruits, des sons, toutes sortes de choses autour de moi, parce que actuellement, nous n'avons pas la structure et les infrastructures nécessaires pour vous livrer un bon message. Mais il faut dire que cependant, ce n'est pas dans la qualité du son que réside la qualité d'un message, mais bien dans l'onction que renferme le message lui-même. Alors, Seigneur Dieu, trois fois saint, merci pour cette opportunité, encore une fois, cette grâce que tu nous donnes d'être rassemblés ensemble devant notre ordinateur, sur notre tablette, notre téléphone cellulaire pour entendre ce message d'exhortation. Seigneur, merci de bénir, de protéger, de soigner, de préserver, de garder tous les gens qui nous écoutent actuellement. De déverser ta grâce, ton onction sur eux, ta protection, ta sécurité, de leur faire une infusion de ton sang afin de les immuniser contre toute maladie, tout virus, toute bactérie, tout microbe, au nom de Jésus, mais aussi et surtout, Seigneur, de transformer les cœurs, les âmes, les pensées, l'esprit des gens, d'ouvrir les yeux de ceux qui nous écoutent, qui entendent ce message, croyants comme non-croyants, afin que ta gloire jaillisse au travers de cette épreuve actuelle qui touche toute la terre entière. Ce n'est pas seulement une séquence dans un pays donné et après ça, on passe à autre chose. Non. Cette fois-ci, on parle de toute la terre qui est touchée, toute l'humanité. Et ça, justement, ça nous amène dans une perspective où est-ce que c'est un message que tu nous envoies par amour, par esprit de douceur, esprit de compassion, de miséricorde, tel un père qui dit à son enfant, « Non, c'est assez, ne fais pas ça encore, ne fais pas, parce que je serai obligé de te punir. » Eh bien, c'est un peu, en quelque sorte, ce qui se passe actuellement avec cette crise du coronavirus COVID-19 qui est dans le monde. Les gens, nous pouvons comprendre que ce soit des personnes non-croyantes, des païens, des chrétiens même, il y a un esprit d'angoisse, de crainte, de détresse humaine, psychologique, émotionnel, même spirituel, qui se fait entendre actuellement. Et il faut dire que tout ça est normal. Tout ça est normal, frères et sœurs. Mais souvenez-vous d'une chose. Souvenez-vous d'une chose. C'est que Dieu est là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors, si vous avez la crainte de l'Éternel, une crainte réelle, de l'Éternel, soyez rassurés, Dieu est là et vous protège. Pour ceux qui, hélas, n'ont pas cette relation privilégiée, eh bien, je vous recommande, dès l'instant même, de lever la main au ciel et de dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout de moi. J'ai rien à t'offrir, Seigneur Dieu, je n'ai rien à t'offrir. Mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà, prends mon cœur. Et c'est de le déclarer. Je n'ai pas l'expression exacte. De le confesser, voilà, comme étant votre Seigneur, votre Sauveur, votre Roi des Rois. Afin d'avoir cette relation privilégiée de grâce avec lui. Le message aujourd'hui, c'est un message qui est sur mon cœur depuis quelques jours, mais je n'avais pas encore trouvé la ligne directrice de comment j'allais aborder ce message et comment j'allais me lancer pour dire ce message. Et je dois dire, frères et sœurs en Christ, que je ne sais toujours pas dans quel ordre je vais procéder pour dire ce message. Une chose est certaine, c'est que, à la lecture de ce que je vois dans les réseaux sociaux actuellement, je vois beaucoup de personnes qui sont des gens qui ont peur, des gens qui sont angoissés, qui ne savent pas que faire, un peu comme dans les psaumes, lorsque ça dit « au bruit des flots », au bruit des vagues et des flots, les gens ne sauront que faire. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe actuellement. Les flots, les vagues de ce qui se passe dans le monde sont tellement fortes, font tellement de bruit, que les gens sont dans l'angoisse de ne pas savoir ce que demain leur réserve, de ce qui va arriver demain. Et j'ai le goût de vous dire, à la lumière de ce passage que je viens de vous citer, j'ai le goût de vous dire, de vous référer au psaume 37,5 qui dit « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alors, tout va dans le sens de faire confiance à l'Éternel. La peur n'est pas de Dieu, mais la peur est naturelle, la peur est normale. Jésus lui-même, à un moment donné, lorsque son heure était venue, il a prié trois fois. Son père, il a dit, « Père, s'il est possible pour toi d'éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Trois fois comme ça. Jésus a eu peur, lui aussi. Jésus était un homme. Jésus était Dieu, mais venu dans le corps d'un homme. Donc, toute la chair qui enveloppait l'Esprit de Dieu était soumise à tout ce que nous-mêmes nous ressentons. Mais l'Esprit était plus fort que la chair dans le cas de Jésus, et c'est ce qui fait que Jésus a résisté. Et tout ça m'apporte à dire, pour rendre hommage à Jésus, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sortons de la Semaine Sainte, nous sortons du Vendredi Saint, la mort de Jésus. Nous sortons également de ce merveilleux moment qui est sa résurrection. Et là, je ne vais pas tomber dans les passages habituels que la plupart des pasteurs prêchent pour dire, bon, il est sorti du tombeau, il a fait ceci, il a fait cela. Non, parce que tout le monde vous l'avait entendu comme prédication pour Pâques. Mais ce que j'ai le goût de vous dire, j'ai le goût d'aller dans Ésaïe 53 et de faire une petite lecture avec vous. Et ensuite, on va démarrer, c'est promis. Ésaïe 53 nous parle de Jésus qui était prophétisé pendant tout l'Ancien Testament. La venue de Jésus était prophétisée. Ésaïe 53 nous donne une image, nous dépeint une image extraordinaire. Il est écrit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous avez bien entendu ce passage? Chacun vivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis, muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Wow, Jésus. Eh bien, ce même Jésus qu'on a mis dans son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. Ce même Jésus, c'est ce Jésus qui est ressuscité, frères et sœurs. C'est ce Jésus qui est ressuscité. Et je comprends que il y a des gens qui sont paniqués, angoissés par ce qui se passe. Il y a des gens aussi qui disent que bon, ce qui arrive est déjà arrivé, puis jamais rien s'est passé. Combien de fois la fin du monde a été prophétisée? Combien de fois des gros bouleversements ont été prophétisés, puis finalement tout est resté normal? Mais 2 Pierre, l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, apporte une réponse à cela. Il dit, « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et ultimement à la vie éternelle. Et cela, toutes ces choses-là amènent leur lot de souffrance. Et actuellement, le monde, l'humanité est en souffrance. L'humanité est paniquée, angoissée, en détresse. L'humanité ne sait pas quoi faire. Les gens sont actuellement enfermés, se sentent comme des bêtes en cage, comme un animal traqué dans le coin d'une maison. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper un chat? Lorsqu'on réussit, ou un chat, ou n'importe quel animal, on réussit à l'attirer dans un coin pour essayer de le prendre, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Là, il est paniqué, et là, ses poils se hérissent, et là, il va chercher à fuir au mieux de ses capacités, et s'il ne peut pas fuir, il va attaquer. Et c'est ça que la panique amène. C'est ça que l'angoisse amène chez les humains qui n'ont pas le même esprit que Jésus a pu avoir. Certains ont l'esprit de Dieu, mais ils ne sont pas débordants comme Jésus pouvait l'être. Donc, ils demeurent humains, ils demeurent sujets à des ressentiments humains. Et c'est pourquoi j'ai un peu de difficulté lorsque je lis des articles sur Internet. Venant de gens qui n'ont pas la connaissance, je peux dire, « Ok, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font. » Mais en revanche, lorsque ces paroles viennent de chrétiens, alors là, les choses changent. Et ce que j'ai le goût de dire aux gens, je sais que si je dis ça à un païen, il va dire, « Non, mais ça ne va pas la tête. » Mais je vais le dire aux chrétiens. Encore une fois, c'est l'apôtre Pierre. Allez lire les 2 épîtres de Pierre, comment ils se complètent tellement bien. 1 Pierre, 2 Pierre, ainsi que les 2 Timothée. C'est incroyable. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 3, versets 17 et 18, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. » Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors vous voyez que ceux qui prêchent le message de dire que Dieu ne veut pas que l'homme souffre, Dieu ne veut pas que l'homme soit dans la misère, dans la difficulté, dans la détresse, dans la douleur, oui, Dieu ne le veut pas, mais dans certains contextes, pour arriver à la finalité de son message, est-ce que à ce que son message, sa parole passe. Oui, Dieu permet la souffrance, comme il l'a permis pour Job. Et encore une fois, je l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, souffrir en étant confiné, eh bien, c'est une forme de grâce. Vous allez le voir plus loin. C'est une forme de grâce. Parce que si vous restez confiné, vous restez à la maison, vous obéissez à vos autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Même ceux que l'on critique. Lorsqu'on critique les autorités qui sont mises en place par Dieu, on critique Dieu en même temps. Prenez ça en note. OK? Alors, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et combien il y en a actuellement qui sentent qu'ils souffrent injustement? Mais c'est faux! C'est faux! Les autorités établies par Dieu, douteuses, ou encore qu'on peut parfois critiquer les choix, les directions prises, tout ça, eh bien, elles sont quand même instaurées par Dieu. Il faut respecter, il faut obéir à nos autorités. Et c'est là que vient la grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement ou qu'on a l'impression de souffrir injustement. Parce que, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fraudes? En tant que meurtrier, voleur ou quoi que ce soit, malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, quelle gloire y a-t-il à supporter ces choses? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre 4,19 a dit une belle parole ici. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est puissant, ça oui, ça mérite d'être relu. Afin que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Wow! Mais, malheureusement, frères et sœurs, beaucoup de gens se détournent actuellement. Et là, je parle toujours des chrétiens. Et ce n'est pas par intention d'accusation ou quoi que ce soit. C'est une réalité. Lorsqu'on va voir dans la Bible, lorsqu'on lit, on comprend les choses. Je vois de plus en plus de critiques envers les gouvernements, envers les autorités, envers le système, envers ce qui se passe, envers telle ou telle situation, tout ça. Et qui se mettent à enseigner des messages biaisés, des fausses exhortations, des fausses doctrines, remaniées à leur façon pour être capable de faire dire à ces exhortations, à ces messages, ce que eux veulent bien dire, ce que eux veulent bien véhiculer comme message, mais qui est complètement hors contexte de ce que l'Évangile nous dit. Voyez-vous, il est décrit qu'à la fin des temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et lorsqu'on va également dans 2 Timothée 4, c'est là que je vous parlais de la... comment... les deux épîtres de Pierre et les deux épîtres de Timothée nous apportent des messages tellement puissants dans ces temps difficiles. 2 Timothée 4 dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends sans censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui leur plaisent, des choses qui conviennent à leur pensée, à leur idéologie, à leur forme de pensée, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Vers les fables. Ça vaut la peine de répéter. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. En s'attachant à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ceux qui viennent prêcher sur Internet, livrer des messages qu'ils ont trouvés sur YouTube, comme quoi un tel dit que dans la Bible il est écrit ceci, cela, et que les gouvernements font ceci, cela, qu'on veut tuer l'humanité, mettez ça de côté. Mettez vos avis personnels, vos croyances personnelles de côté. Ne pas s'empresser de dire ce qu'on pense. Selon notre foi, nous, c'est ça. Ma foi et votre foi est différente. Et on ne peut pas être d'accord sur tout. De s'en tenir à ce que la parole dit. La façon dont on vit notre foi et la façon dont la parole dans la Bible est annoncée, ce sont deux choses différentes. Nous demeurons humains. Et notre foi, parfois, peut être diluée, altérée par les messages extérieurs. Nous sommes soumis à toutes sortes de choses, des publicités, des images, des vidéos, des enseignements. Et nous sommes comme des éponges. Et ce qu'on laisse entrer, qui n'est pas conforme à la parole, pollue notre esprit, pollue notre foi. Et si on s'empresse à aller prêcher notre foi personnelle à nous et non pas la foi telle qu'enseignée par Dieu, eh bien alors, on amène des gens dans une mauvaise direction. On prêche une fausse doctrine, on amène des gens dans une mauvaise direction. Et puis, à ce moment-là, eh bien, c'est comme un peu tenter notre prochain. On les met en situation de tentation. Lorsque le passage de 1 Timothée 3 nous dit « Ainsi je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. » Est-ce que vous avez bien compris ce message? Lorsque vous prêchez autre chose que la vraie doctrine de Dieu, peut-être pensez-vous bien faire. Mais vous vous mettez vous en danger spirituellement et vous mettez les autres en danger également spirituellement. Le but du commandement, la suite de ce verset, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. C'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment puissant. Malheureusement, ce qui se passe dans le monde actuellement, cette pandémie du coronavirus, n'est pas une fin en soi. C'est sûr que nous allons relever de cette pandémie. C'est sûr que le monde ne sera plus jamais le même après cette pandémie, du moins je l'espère. Parce que ce qui se passe actuellement, eh bien, a un seul et unique but. C'est de faire réaliser la petitesse de l'homme dans cet univers. Imaginez comment ce virus est petit par rapport à nous. On prend un cheveu, on le découpe en 100 parties égales. En 100 parties égales. Vous imaginez la grosseur du virus par rapport à nous, nous par rapport à l'univers, et comment ce virus actuellement a chamboulé nos vies, à jamais, à chambouler notre vision, notre perception de la vie. Nos choix, nos priorités qui devront être revus au détour de ça. Eh bien, la Terre, l'humanité entière, était sous respirateur depuis des années. À cause de l'industrialisation, à cause des progrès, à cause de la voracité des hommes, à cause de la jalousie de ceux-ci, la convoitise, les désirs toujours plus grands de vouloir posséder telle ou telle chose, de toujours avoir plus et plus. Dieu a envoyé cette maladie sur le monde afin de faire réaliser aux gens leur dépendance envers les choses du monde versus la dépendance qu'ils devraient avoir envers Dieu. Et c'est tout là, justement, que tout se joue. L'homme était tellement axé sur lui-même, ses possessions, son compte en banque, sa situation sociale, professionnelle, son apparence physique, le sentiment de comparaison avec le voisin à côté, de dire « Ah, lui, il fait tel truc, il a tel truc, moi, je vais faire plus gros que lui encore », tout ça. Eh bien, tout ça, c'est un peu une tour de Babel. Et souvenez-vous ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Lorsqu'on a tout, on n'a besoin de rien, n'est-ce pas vrai? Eh bien, l'homme lui-même et aussi les chrétiens sont inclus dans ça. Malheureusement, c'est vrai, frères et sœurs. Quand bien même vous allez me dire comme ça, mais qui es-tu pour juger? Je suis désolé, mais c'est vrai. Lorsque les gens ont tout, quel est leur intérêt de devoir aller devant Dieu à genoux, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses telle œuvre dans ma vie, tel truc. » Ou « J'ai besoin, Seigneur Dieu, que quelque chose se passe actuellement là, parce que j'ai un problème quelque part et je risque de tout perdre, etc., 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 etc. » Ça s'appelle la dépendance de Dieu. « Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose parce que je ne sais pas demain de quoi ma journée sera faite. Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment sera ma journée demain? » Mais comment les gens peuvent penser à de pareilles choses, à une pareille dépendance lorsqu'ils ont tout? Mais c'est impossible. Alors Dieu a ramené les choses à la normale maintenant. Et je prie de tout cœur, et là je ne me ferai pas d'amis, je prie de tout cœur que les choses, au retour, ne soient plus jamais, mais jamais, mais jamais pareilles. Que l'homme ne retombe plus dans ses anciennes voies, dans sa vieille convoitise, dans son égoïsme, son narcissisme, son écocentrisme, son matérialisme. Mais, vraiment, qu'il puisse se tourner plutôt vers son prochain, vers Dieu, et dépendre de lui. Et je souhaite aussi, comme l'a dit l'apôtre Paul, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car oui, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Et il y a une grande tentation qui vient sur le monde. Allez dans le livre d'Apocalypse, lisez-le de fond en comble. Et pour les églises, encore qui se sentent accusées lorsque je parle, allez lire les sept lettres aux églises. Vous allez voir que sur les sept églises, il y a cinq églises qui subissent des reproches. Comme quoi Dieu a vraiment des reproches envers son église aussi. Alors, tous nous devons changer. C'est le message que Dieu nous envoie. Vous savez, l'église actuelle, lorsqu'on va dans Apocalypse et cette lettre aux églises, lorsque Jésus parle aux églises, il leur dit tous, il a tous des compliments envers elles. Parce que je ne doute pas de la sincérité des églises en place. Et Jésus non plus. Parce que Jésus a dit dans chaque passage, dans chaque lettre aux églises, « Voici, parce que tu as retenu ma parole, que tu as ceci, que tu as cela. » Bon, il félicite presque les églises. Mais il dit, en revanche, pour d'autres églises, « Mais ce que j'ai contre toi. » Alors, il faut se mettre à réfléchir. Il faut se mettre à réfléchir en tant qu'église, en tant que fidèle, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant que, peu importe, en tant que croyant. L'église se doit de changer maintenant. Ésaïe 29 a dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. On retrouve le même passage dans Matthieu 15 également. Là, vous allez dire, oui, mais c'est plus pour les catholiques, je suis désolé. C'est pour toutes les religions, parce que devant Dieu, premièrement devant Dieu, il n'y a pas de religion. Il n'y a qu'une relation. Et lorsque le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approchera de moi », il parle bien sûr de son peuple, à lui, Israël. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, eh bien, c'est nous maintenant qui sommes Israël. Alors les paroles demeurent. « Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Mais, frères et sœurs en Christ, il y a un remède à tout ça. Ce remède, c'est Dieu. Ce remède, c'est de se confier en lui, de lui remettre nos vies, de lui demander pardon, de dire « Seigneur, change-nous, transforme-nous au complet, de fond en comble, corps, âme et esprit. » C'est de s'humilier devant sa face. C'est de se détourner de ses mauvaises voies. C'est de faire sortir de nos églises le compromis qu'on a laissé entrer. Pourquoi le compromis est rentré dans les églises, vous croyez? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons laissé le compromis entrer dans nos propres vies avant. Et en rentrant dans les églises, le compromis s'est installé aussi. C'est le principe de la contagion, exactement avec ce qui se passe pour le coronavirus actuellement. Tu es contaminé, tu vas visiter une autre personne. Tu vas dans un rassemblement. Tu contamines tous les autres. Et ainsi de suite. Eh bien, c'est le même principe. Mais le Seigneur a dit dans Deutéronome 31:8, « Ne crains point, car je suis avec toi, je marche devant toi. » Alors l'Éternel est devant nous, il marche et il ferme la marche derrière nous également. Il campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Pour ceux qui le craignent vraiment. Et en terminant, j'aime tellement ce passage de la Bible. Et j'ai découvert que le passage qui précède mon passage préféré parle vraiment avec puissance. Écoutez bien ça. 2 Chroniques 7, verset 13 à verset 15. Dieu dit comme ça, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays et j'enverrai la peste parmi mon peuple, réalisez-vous que ces trois choses se sont passées en 2019. Plusieurs pays ont vécu des sécheresses, des incendies partout dans le monde qui ont ravagé des pays entiers. » D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit, « La terre sera consumée par le feu. » Mais revenons à 2 Chroniques. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, ces sécheresses qu'on a connues, les incendies qui ont brûlé l'Amazonie, l'Australie, l'Afrique, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient, en Afrique également, au Liban, tout ça. Les sauterelles, les criquets qui ont envahi les pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, regardez ce coronavirus actuellement qui est sur le monde. Eh bien, la suite est vraiment lumineuse. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Frères et sœurs bien-aimés, notre place à nous chrétiens, quoi qu'on en pense, ne sont pas entre les quatre murs d'une église à se rassembler à tous les dimanches pour se retrouver comme en famille, entre guillemets si vous préférez, entendre un message pour ensuite courir, aller manger au restaurant ensemble pour discuter de tout et de rien, de discuter de nos semaines, de ce qu'on va faire, de ce qu'on a fait, de ceci, de cela. Je ne dis pas que c'est tous les chrétiens qui font ça, mais il y en a plusieurs qui le font. Et ensuite de retourner à la maison comme si de rien n'était et de se regarder dans le miroir et d'être comme celui qui se regarde dans un miroir et qui oublie ce qui a l'air. Vous savez, notre position à nous, en tant que chrétiens, c'est de sortir de ce club religieux, ce club social appelé église, bâtiment, rassemblement, assemblée. Et c'est d'aller vers les gens, à l'extérieur, de prêcher la bonne nouvelle, le salut, la croix, la repentance aux gens, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé, de sortir aider les gens, son voisin, d'être attentif à la misère des autres, de s'oublier soi-même. Oui, s'oublier soi-même, comme Jésus s'est oublié lui-même. Malheureusement, en ces temps de fin des temps, tous, bien au contraire, plutôt que de s'oublier nous-mêmes, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Et c'est un constat qui fait très mal. Notre position, notre devoir, c'est que lorsque on voit une personne souffrante près de nous, et pas seulement exclusivement dans l'assemblée, c'est pour ça que je dis ça, parce que souvent les gens s'attardent à ceux qui sont dans leur assemblée. « Oh ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air malade. Ah, ça va pas, ça va pas. Ah, eh bien, je vais faire ceci, je vais prier pour toi, on va t'aider, on va se mettre ensemble, on va aller t'aider dans ton logement. » Mais il n'y a pas que ça, il y a des gens qui souffrent à l'extérieur. Il y a des voisins, nos voisins, il y a des amis, des connaissances, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont seuls dans leur maison, qui ne connaissent pas Dieu, qui souffrent, qui auraient soif d'entendre que Dieu les aime, que Dieu est là pour eux aussi, de connaître aussi le temps où nous sommes rendus, d'avoir une petite tape sur l'épaule, de dire « Hey, pour reprendre une expression qui circule beaucoup pendant cette période, ça va aller, ça va aller. Dieu est là. Je vais prier pour toi. Je vais t'aider de toutes les façons que je peux t'aider. Et le Seigneur va agir. » Mais il ne s'agit pas seulement de toujours de simplement dire « Je vais prier pour toi. » Parce qu'il y a d'autres choses à faire pour aider les gens aussi. Lorsqu'on aide quelqu'un, on peut aider de diverses façons. Ça peut être matériel, logistiquement, humainement, physiquement, monétairement, financièrement, psychologiquement, émotionnellement, humainement parlant, bref, il y a plusieurs façons. Alors, on ne peut pas dire à des gens qui sont dans la détresse, simplement leur dire « je vais prier pour toi » pour que Dieu envoie quelqu'un vers toi. Non, parce que c'est toi, oui, toi qui entends ce message, que Dieu veut envoyer. C'est toi que Dieu veut utiliser. pour aller vers ces gens, pour les aider, les appuyer, les soutenir, les relever, passer leurs plaies. Qu'à dire de plus? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Frères et sœurs bien-aimés, un gros merci de m'avoir entendu, de m'avoir donné ce privilège de pouvoir vous livrer le message qui était sur mon cœur ce matin, qui évidemment n'est pas parfait, qui évidemment ne plaira pas à tous, mais c'est une réalité et on a besoin d'entendre la vérité. Parfois la vérité fait mal, mais c'est un peu comme les réprimandes et puis la correction d'un père. Ça fait mal au début, lorsque je me rappelle lorsqu'on était jeune, la strabe, le bâton, ça fait mal. Mais après ça, eh bien, lorsque c'est passé, on se rend compte que on comprend les choses, on voit les choses autrement et on est plus apte à avancer en ligne droite. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci Seigneur Dieu pour cette opportunité encore une fois que tu m'as donnée de prêcher ta parole. Merci pour cette onction, cette grâce que tu m'as fait de pouvoir parler, de pouvoir être ton outil, ta bouche, tes lèvres. Et que malgré que je suis seulement un être humain, un être charnel, que bien évidemment, parfois, certaines paroles ont peut-être été mal exprimées. Mais ta parole demeure, ta vérité demeure, ton esprit, ton onction demeure. Et que peu importe de la façon dont les choses sont dites, lorsque l'esprit est là, eh bien, peu importe la langue, les paroles utilisées, les gens comprennent et reçoivent le message. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce que je te demande de faire envers tous ceux et celles qui entendent ce message aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse déverser une onction et une grâce sur vous, ainsi que l'immunité totale contre toute maladie, tout virus, toute maladie, toute bactérie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen et amen.